Cette
Super.
conférence va maintenant être enregistrée.
Voilà, nous attaquons un nouveau pérek et il serait bon de faire le détour dans la paracha des Nedarim, parachat Matot. Alors, ou bien que vous attrapez un chumash Bamidbar pour prendre le début de parachat Matot, ou que vous avez les psukim au début du pérek, c'est possible que dans vos gemarot, on ait reporté le passage sur lequel le pérek se rapporte. Dans Magmara, par exemple, au début du pérek, il y a tout l'ensemble des psukim de Parashat Nedarim. Si c'est le cas, tant mieux, sinon ce serait bien d'avoir un chumash Bamidbar au début de Parashat Matot. On va faire un petit survol rapide. Alors, je lis le texte. Ce sont les psukim. Vaidaber Moshe al Rashi Matot Ibn Israël et Morza Davar Asher Tziva Hashem. Alors, il y a les Nedarim de l'homme. Un homme qui aura fait un vœu doit s'en tenir. Bref. Maintenant, Veisha, c'est sur ça qu'on va parler dans ce Perek. Les Nédarim au féminin. Puisque pour un homme, le seul recours qu'on a, c'est chez la Tracham pour obtenir Atarat Nédarim. Et on a déjà vu que les Nédarim. Chez le Chacham, on obtient une atara, c'est-à-dire rétroactive. Le Chacham, il est au cœur à Neder Meikaro, le Mafreya. Comme ça, on a une preuve dans Maseret Ktuvot et dans Kiddushin. Maintenant, concernant la femme, il y a bien sûr le din de chez la Chacham, mais il y a aussi des fois le père ou des fois le mari. Alors, la Torah nous dit Beisha qui tidor neder l'Hashem ve'aser ha'isar bevet avia binurea. Une femme qui aurait fait un vœu alors qu'elle est encore au stade neurim. Neurim, c'est-à-dire qu'elle est nahara. Elle est bevet avia, c'est-à-dire non mariée. Donc une jeune fille finalement qui n'est pas mariée. Elle est birshut avia, c'est ce que la Torah nous signifie. Elle s'appelle birshut avia. Peu importe qu'elle est sous le toit du papa ou non, ça s'appelle Bevet Avia, elle est Birshut, officiellement la Torah, la statue sous l'autorité du père en matière de Nedarim. Tout comme elle est Birshut Avia pour les Kiddushin, pour encore d'autres choses, Maaseyadea, elle est Birshut Avia pour Nedarim, que c'est son père qui aura le dernier mot, comme on nous précise, Veshama Avia et Nidra Vesara Shera Sera Nasha. Et le père aura eu écho du neder qu'elle a fait. Vecherish l'avia, son père a gardé silence. Il ne s'est pas interposé. Alors, vekamu koledarea vecholisar asher asera nafsha yakum. Se fige et se fixe définitivement les vœux. Le vœu est en vigueur, contraignant. Mei meni avia ota biyam shomo. Mais si le jour où le père a eu écho de ce vœu, il s'est interposé, il a refusé, c'est-à-dire il a mis son veto. C'est ce qu'on appelle la hafara. Alors, la Torah nous dit que le vœu lo yakum, le vœu ne se maintient pas. En français, le vœu est nul. Comme quoi le père peut annuler le vœu de sa fille. Il a juste le délai de la journée quand il apprend, même s'il apprend en retard, plusieurs jours après. Mais le jour qu'il a appris le vœu, il doit l'effacer le jour, sinon c'est trop tard, le vœu est adjugé. Maintenant, la hafara n'est que Mikanou là-bas et non les Mafreya. Le Baal, il est Mefer, ou le père, il est Mefer. Les Nedarim, ils effacent le vœu, Mikanou là-bas. Veimayotiye leishundare alea omifta sefate asher aseral nafsha. Et si elle était un homme, c'est quoi Havaya? C'est Kiddushin, Arusa. Si cette nara était Mekudeshet, un homme, Veshamaïshaber, et le mari l'a entendu, et il s'est tu, les Nedarim sont adjugés. Et s'il a refusé, Veimbeyam Shemaïsha, Yaniota, Veiferet Nidra. Et si le jour où le mari a entendu, il a fait Afara, alors le vœu est nul. Veneder Almana Groucha, Kolachera Seranafshaya Kumalea. Une femme qui est veuve, elle n'a pas de mari pour effacer, alors ses vœux sont automatiquement adjugés. Beimbet Isha Nadara, Et si c'est dans la maison du mari, que veut dire la maison du mari? Ça veut dire qu'elle est déjà Nessoua. Alors, dans ce cas-là, ça dépendra du mari, encore une fois. La Torah nous dit que ça dépend du mari. Si le mari l'a entendu, il s'est tu, ça valide le vœu. Et s'il a refusé, il a effacé, il va faire, il va faire au tam, alors c'est effacé. Voilà en bref. Voilà en très bref. On va réaliser à travers la Sugya qu'il y a ici trois sujets nous concernant la jeune fille qui est encore chez son papa, c'est-à-dire non fiancée, et donc c'est que du ressort du père. Il y a celle qui est déjà Mehorasa, fiancée, et là ça dépend du père et du fiancé. Conjointement, ils devront effacer le vœu. Sinon, le vœu est validé, même si un des deux parties efface. Il faut une afara conjointe et il y aura le stade de Bevetavi Betisha. Betisha Nadara. Dans la maison d'un mari, ça veut dire qu'elle est Nessoua. Là, elle est Nessoua, c'est que du ressort du mari. Elle n'est plus sous la tutelle du père. Voilà pour les introductions. Maintenant, on peut commencer la Mishnah. La Mishnah reporte le din qu'on a vu que si elle est binouréa, c'est-à-dire dans la période de Neurim, Nahara, c'est quoi Nahara? C'est à partir de 12 ans. Elle a les simané Naharut, en général, les Shtesiarot. Et pour une période de 6 mois, elle s'appelle Nahara. Passé ce stade, elle est Bogeret, majeure. Donc, tout le sujet de Nedarim, que le père, il est responsable sur sa fille en matière de Nedarim, ce n'est que jusque Narut inclus. On voit bien dans les psukim que Bevet Avia Benourea est en Nara, elle est encore à la charge du père. Très bien. Mais passé l'âge de Néorim, si elle est Bogueret, oublie le père, il est mis hors jeu. Comme dans toutes les lois d'ailleurs, pour Kiddushin, il ne peut plus marier sa fille, c'est son affaire à elle. Elle est majeure, indépendante. Pour son Maaseyadea, idem. Très bien. Donc, on parle uniquement de la Nara et non la Bogaret. Et la Ktana, on n'en a pas parlé. Mais est-ce qu'on voulait l'exclure? Nous disent le Ran et le Roche, elle n'est pas forcément exclue. Parce qu'il y a un din que un Katan ou une Ktana, un an avant l'âge de la majorité, avant d'être Nara, à 11 ans, Yom Echa, à 11 ans et un jour, ça veut dire 11 ans révolus, on est bodkin et d'areia. On vérifie, on teste si elle est consciente que représente un vœu. Et si on sent que oui, il comprend, alors son vœu est contraignant, même qu'elle n'est pas encore majeure. Et c'est indigne de la Torah. Si bien que on peut parler de la Ktana au même titre que la Nahara. Et quand on a dit Nahara, c'est pour exclure ou Ktana Mamash ou Bogaret. Mais Samou Hamoufla le Ish, c'est une expression qui veut dire qu'on n'est pas loin de la majorité. Un an avant, pour un garçon, c'est 12 ans. Pour une fille, c'est 11 ans. Alors déjà, on vérifie. Si on a testé, on voit qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils comprennent la portée d'un vœu. Le vœu est contraignant. Et là, le dîner est le même. Que si elle est à la charge du père, il n'y a pas de fiancé, c'est que le père. Si elle est fiancée, c'est le père et le harus, harus le fiancé. Dans les mots, Nahara Morasa via Ubala Mefirin et Daria. Faut le concours des deux. Et la Mishnah rajoute, Efer Avelo Efer Abal, le père a fait sa part et non le mari. Abal Velo Efer Av, le fiancé et non le mari, et non le père, et non Moufar. C'est nul. On a dit, il faut la fara des deux. Est-ce que ce n'est pas une répétition? Tu m'as dit, il faut la fara des deux. Maintenant, tu me dis, la fara de l'un sans l'autre. Et inversement, c'est nul. C'est une répétition, clairement. On verra dans la Gemara pourquoi il fallait insister. Ve'en tsarich lomar she'kiyem echad me'en. Inutile de dire si l'un des deux parties a validé le vœu. Qu'à plus forte raison, que ça empêche l'autre partie de prononcer la fara. La fara sera nulle. Très bien, Gemara. Aïe Ah, Viaou, ben, c'est exactement la même chose. Tu m'as dit dans la Recha, le père et le Arous, tous deux font Afara, ça veut dire conjointement. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter la deuxième partie de la Mishnah? Le père aurait fait une Afara sans le concours du Arous, ou le Arous sans le père, c'est nul. Tu m'as déjà dit, il faut les deux. Maoud et Téma, répond la Gemara. Tu aurais pu dire que O Avia O Baala Katani. Quand on a dit les deux, ça veut dire les deux sont candidats pour la Afara, mais pas forcément conjointement. Kamash Malan que si. C'est que conjointement qu'ils y parviennent. L'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il y a le titre et il y a le complément d'information pour préciser, attention, les deux conjointement. Pas ils sont tous les deux candidats, non. Conjoints, ils peuvent y arriver, sinon non. Ensuite, la Mishnah l'a rajouté, inutile de dire, Enser Lomar, c'est qui est Mechadmen, que si un des deux il a validé le vœu, ça entrave la fara de l'autre. Et sur ça, la Gemara demande, la Mali, les Mitna, à quoi bon enseigner ce supplément? Déjà, on a vu, on a dit précédemment dans la Mishnah que la fara de l'un sans l'autre, c'est nul. S'il y en a un autre, si l'autre, il a validé, à quoi bon le dire? Kol Sheken, si déjà parce qu'il n'a pas fait sa part de la Hafara, c'est compromettant, le Neder court toujours, alors a fortiori, si en plus il a validé, c'est la question. Donc la Mali, réponse. Alors là, dans le texte, il y a quelques rectificatifs, mais en bref, l'idée, c'est que on a une question de répétition, enfin de passage qui est superflu, qui est inutile. Et le RAN, il nous précise qu'on ne peut pas se permettre de répondre comme souvent les Gemarot disent, Lozu avzu katani, ou plutôt, zu ven tsarich lomar zu. Des fois, on dit que le premier enseignement, il est le plus grand chidouche, c'est vrai. Et l'ayant dit, ben inutile de dire le suivant. Et quand même, on te dit le suivant. Comme par évidence, on te dit ce premier chidouche, et inutile de dire ce deuxième. Mais on te le dit. Ça existe que malgré tout, le Tana le dit. Ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une solution du Loran, parce que le deuxième, c'est pas seulement il est plus évident. Il englobe, il inclut le premier. Parce que qui dit kiyum veut dire non afara. Donc si le deuxième parti, il a été mekayem, avant tout, c'est qu'il n'a pas été mefer. Or, tu m'as déjà dit que non afara du deuxième parti, ça compromet. Donc, a fortiori, je comprends que s'il a été mekayem. Donc là, ce problème, on ne peut pas le surmonter en disant. Zou ben sarich lomar zou. Très bien. Donc la question en est une. Comment répond? Alors la Gemara nous dit, Tsrichale le mitna. Je lis d'après la version du Bar. Tsrichale le mitna. Le Tana avait besoin d'enseigner. Kegon de echad. Imaginons que l'un des deux, il a fait la fara et l'autre, il a été mekayem dans un premier temps. Et le mekayem fait marche arrière. Il allait demander chez la tracham sur le fait d'avoir validé le vœu. Disons le harous, le mari, le khatan, il allait voir le chacham pour retirer ce qu'il a été mekim, le neder de la fiancée. Or, il y a un dîme qu'on verra plus loin. Qu'on peut retirer auprès du Chacham, par chez la Tracham, la Hakama du Neder. La Hakama, je redis, c'est quand le père ou le mari valide, il a entendu, il a été Mekayem, ou il s'est tu toute la journée, ça vaut Kiyum. Et donc, si le mari, disons, c'est lui qui a fait, le père, il a fait la Hafara, et le Baal, il a fait la, il a été Mekim. Et après, il se rétracte, il va faire chez la Tracham. Maoud et Téma, qu'est-ce que tu aurais dit? Maïdeouke, Haakre, ce qu'il a été Mekayem, il a annulé. Parce que n'oublions pas que le Chacham, il est Matir le Mafria, un Eder. Et donc, ce que tu as été Mekim, ce que tu as été Mekayem, pardon, le Chacham, il l'a retiré le Mafria. Et donc, du coup, j'aurais dit que quoi, que ben, c'est bon, on a la Hafara du père, plus aujourd'hui la Hafara du mari. Et ça se conjugue et c'est très bien. Kamash malam que non. La Mishnah est là pour nous faire entendre que non. Que mefirin shne mevatachat. On a besoin d'une afara des deux sans interruption entre les deux. C'est ça, mevatachat. Ça ne veut pas dire simultanément. Il se pourrait qu'un il a entendu aujourd'hui et l'autre le lendemain. L'essentiel, c'est que chacun, quand il entend, il fait sa afara, même s'il y a un intervalle, un ou plusieurs jours. Mais qu'il n'y ait pas eu de hakama entre les deux. Parce que s'il y a eu hakama entre les deux, là, ça compromet. Même si après, sur cette hakama, il y a eu shelat chacham, c'est trop tard. Il n'y a pas cumul de deux hafarot. Ça ne peut pas récupérer la hafara du père. Même une fois que le Baal, il a fait hafara de sa hakama, c'est fini. C'est perdu. Il faudra refaire une afara l'un et l'autre. En bref, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption par quelque chose qui compromet la afara, à savoir la hakama. Ce chidouche, on ne l'entend que de la sefa. Parce que la Mishnah l'a dit, c'est pas dans le cas basique où il y en a un qui a fait Afara et l'autre il a été Mekim. Mais ça, tu l'entends de la Recha largement. Puisque dans la Recha, on t'a dit même le défaut de Afara d'un parti compromet. Kol Sheken, s'il est carrément Mekim. Non, le Chidouche, c'est qu'il a été Mekim. Et après, il se rétracte. Il fait Shelat Chacham comme s'il n'a jamais été Mekim. Alors du coup, tu vas dire la Afara d'aujourd'hui qui va faire. Et la fara du père qui avait été fait l'autre jour, ben, se cumule. Non, c'est faux. Ça, c'est le chidouche que ça ne peut pas marcher parce qu'il faut bevatachat pour que ça se conjugue. Il ne faut pas qu'il y ait interruption par quelque chose qui compromet la fara, à savoir akama. Le Rashba a soulevé une question. En vertu du principe que le Chacham, il est au cœur, le Neder, l'Emafreya, rétroactivement. Il en est donc ainsi pour la Hakama. Quand le mari, il a été Mekim, le lendemain, il va voir le Chacham, il regrette, il demande chez la Chacham pour qu'on lui retire cette validation du vœu de la fiancée. C'est comme retirer un Neder. Ça se fait chez le Chacham. Très bien. Mais ça a le même effet que chez la Tracham pour Atarat Nedarim. C'est rétroactif. Et si c'est rétroactif, pourquoi tu considères que ça entrave le partenariat du père et du Baal? Voilà, on a la Fara de l'un, on a la Fara de l'autre. C'est comme s'il n'y a rien eu entre les deux. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui interrompt, qui sépare et plus qui compromet la Fara du père parce que le mari a été Mekim. Mais maintenant, il s'avère que c'est comme s'il n'y a jamais eu. Alors, pourquoi tu as besoin de renouveler la fara du père pour conjuguer les deux? C'est ça qu'on appelle bevat achat, sans interruption par la hakama. Mais tu l'as retiré rétroactivement. C'est une question du Rashba que le Ran répond. Le Ran nous dit, c'est vrai que la rétroactivité, ça nous rend service, comme on a vu par exemple dans ma série de Ktuvot, que si une femme, elle a reçu les Kiddushin et il y avait la condition qu'elle n'ait pas de Nedarim. Finalement, elle a des Nedarim. Mais elle allait voir le Chacham. Et si on dit que le Chacham, il est au Caire, et comme on dit que le Chacham, il est au Caire, l'Ema Freya, ben c'est comme si elle n'avait pas de Nedarim. Donc, c'est possible que les Kiddushin soient validés. En tout cas, il y avait un avis comme ça. Après, il faut voir est-ce que le mari, il est rotsé chez Titbazé Ishto Beveddin pour aller solliciter Shelat Chacham. C'est tout un débat qu'on avait vu là-bas, mais c'est autre chose. Pour l'instant, À part ce problème technique, l'idée étant que si chez le Chacham on a un recours qui est auquel le Neder rétroactivement, c'est une solution. Voilà, il s'avère que les Kiddushin se sont faits alors qu'elle n'avait pas de Nedarim. Il y en avait, mais il n'y en a plus. Rétroactivement, il n'y en a plus. Si c'était des Moumim, on avait vu que non. Le médecin, il lui a enlevé le défaut qu'elle avait, mais au moment du Kiddushin, elle avait ce défaut. Donc, ce n'est pas une solution d'enlever le défaut. Mais si c'est des Nedarim, comme tu peux enlever rétroactivement, oui. Alors, le Rashba, il te demande, mais là aussi, tu n'as qu'à dire la même chose que quand le mari, il a été Mekim, tu enlèves ça rétroactivement et c'est réglé comme s'il n'y a jamais rien eu. Le Ran, il dit, ce n'est pas la même chose parce que le Maasé Kiddushin, c'est un Maasé Gamour. C'est un Maasé fort qui dépend, bien sûr, de ce Tnaï. Et tant que, c'est vrai que tant que on n'a pas fait la Tarat Nedarim chez le Chacham, la présence de Nedarim compromet, parce que c'est le Tnaï, ça a la force de compromettre la Chalout des Kiddushin. Mais aussitôt qu'on fait Atara, c'est rétroactif, ça valide la Chalout Kiddushin. Par contre, ici, il faut se rendre compte que la Fara, qui provient que d'un des deux, c'est quelque chose de très faible, très branlant. Pourquoi? Parce qu'il est incapable à lui seul d'en venir à bout. Il a besoin du concours de l'autre. Et même avec le concours de l'autre, dit Loran, ça ne marche que tant que c'est Raoul et Itztaref. Par exemple, s'il y en a un qui a fait la fara et l'autre il va mourir après, c'est pas bon. La fara est nulle. Ça montre la fragilité de la fara de l'un sans le concours de l'autre. Si bien que quand l'autre, il est mekim, même si par la suite on peut enlever cette hakama bechela tracham rétroactivement, mais au moment où il a été mekim, la fara du premier qui était tellement branlante, elle a disparu pour de bon. Tu ne veux plus la ressusciter, même si après tu enlèves la hakama, tu ne vas pas ressusciter la fara du père. C'est pourquoi ce n'est pas une solution d'aller chez le chacham après. C'est pourquoi la Gemara a conclu, a convenu, et même elle nous dit que c'est le chidouche de la Mishnah, qu'il nous faut la fara de l'un et de l'autre qui se conjugue sans qu'il y ait d'interruption au milieu par une hakama quelconque, même si cette hakama a été retirée par la suite, et même si c'était retiré avec rétroactivité, ça ne solutionne pas, tu as perdu la fara du père qui s'est tout d'elle-même automatiquement annulée complètement. Donc il faut la renouveler pour avoir la fara de l'un et de l'autre conjuguée. Très bien. Donc on a compris maintenant tous les éléments présents dans la Mishnah, quelles sont leurs nécessités, il n'y a aucune répétition, tout est bien à sa place. Maintenant, on a compris que le sujet central dans notre Mishnah, c'est la Farat Nedarim d'une Nahara qui est fiancée. Alors que précédemment, avant fiançailles, elle ne dépend que du père, comme on l'a vu dans le premier sujet de la Paracha, c'est le père qui décide où il est Mekim, où il aimait faire le Nedarim de sa fille. Maintenant qu'elle est fiancée, ça dépend du père et du Baal. Quand elle est nessoise, ça dépend que du Baal, comme on l'a vu dans les psukim. Maintenant, en ce principe, c'est ça qu'on va rechercher tout de suite dans la Gemara. On recherche la source. La Mishnah nous l'a présentée, mais d'où on sait? Benara morasa de avia ou bala mefirine dare amenalan. J'ai lu comme le Ran. C'est pas une piska. C'est directement la Gemara nous dit ce dîne principal de la Mishnah que une aramorasa, il faut le concours des deux. D'où le savons-nous? Amaraba, amarkra le pasukadi. Veimayot yeleishun dare alea. Si elle était liée à un homme. traduisons déjà même, fiancé. Nessua, c'est un sujet qui est plus tard dans les psukim. Donc, fiancé. Undare Alea, elle avait des nedarim déjà préalablement. Alors, on dit que le mari, il a sa carte à jouer. Ou il est mekim, ou il est mefer. Mikal en aram orasa shavia ou bala meferi nedaria. De là, on entend que à ce stade, stade intermédiaire, il faut le concours des deux. Elle n'est pas encore entièrement soustraite à l'autorité du père. Elle dépend du père encore. Et c'est les deux conjointement qui feront la fara. Comment je l'entends? La Gemara n'a pas vraiment développé. Mais elle nous dit que c'est de ce passage de la Torah qu'on l'entend. Le Ran est là pour commenter. Et il nous dit que le sujet de la Nessoua, il est plus tard. Le sujet de la célibataire, il est plus haut dans les psukim. Et la Torah nous a déjà dit que le père, à lui seul, il peut faire la fara pour sa fille tant qu'elle est encore Nahara. C'est ça, Bevet Avia, elle est. Quand est-ce qu'elle est encore sous la tutelle de Avia? C'est ça, Bevet Avia, tant qu'elle est Nahara. Et quand on dit Ve'im, il y a le Vav qui est Mosif Aliyan Rishon. Ça se traduit que ça se rajoute, c'est une étape intermédiaire où la Torah elle rajoute un élément supplémentaire. Rentre en jeu le mari. La Torah le dit, s'il est Mekim, c'est adjugé, s'il est Mefer, c'est annulé. Mais il n'est pas le seul intervenant. Parce que depuis quand tu vas imaginer qu'il soit le seul intervenant, sachant que quand elle est Nahara, elle est encore sous l'autorité du Père. Et c'est déjà établi dans les psukim avant. Il faut comprendre que la Torah voulait rajouter le mari comme intervenant conjoint avec le père. Et de le Ran rajoute que de dire que l'intention aurait été que le Harous à lui seul y fait la Hafara, c'est en soi un non-sens. On a déjà vu, juste après, dans les Tsukim, le cas du mari qui fait lui seul la Hafara, quand elle est Nessoua, c'est ça, Veimbet Isha Nadara, si dans la maison du mari, ça veut dire une femme mariée, Nessoua, pas juste Harousa. Et là, on parle du mari. Et le mari, il efface. Donc, quand elle est Nessoua, il efface. Si Arusa aussi, il efface, ça ne peut pas être la même chose. Pourquoi la Torah va nous dire ce din et ce din? Si déjà Arusa, il peut effacer à lui seul, pourquoi tu me parles de Nessoua? Donc, Nessoua, hein, c'est lui seul. Et Arusa, ce sont les deux. Voilà forcément le plan au niveau des psukim. Donc, il y a le sujet 1, c'est que le père. Le sujet 3, c'est que le mari. Et entre les deux, quand la Torah nous parle de Im, Ayo, Tiye, Le Ish, Undarea, Alea, si elle était donc fiancée et qu'elle avait des Nedarim, et qui sont arrivés à l'oreille du mari, qu'il a été Mekim, c'est adjugé, ou qu'il a été Mefer, c'est annulé, c'est pas lui qui a le dernier mot tout seul. C'est lui en plus du père. Parce que le père, il a une autorité sur sa fille pour les Nedarim et elle ne s'en est pas soustrait entièrement par le simple fait des Irusin. Lui, Nisuin, ça l'a soustrait entièrement. Ou quand elle deviendra Bogueret. Mais tant qu'elle est Nahara et que fiancée, eh bien, Vinuria Betavia, ça reste encore une réalité. Alors, ça se rajoute. Vav Mosif Alinan Rishon, ce passage qui vient évoquer le mari comme complément en plus du père. Maintenant, sur ce limoud, la Gemara a des remarques. Veima, pourquoi tu ne dirais pas Haïkira Binesu active que ce passage nous parle de la femme mariée et que la mariée, ce soit Saledine? Donc là, Roussa, Oublie, pas besoin du mari. Ah, la Torah l'a mentionné. Vimayoti eleish, alors le mari rentre en jeu. Mais ça, c'est pas la Arusa. Peut-être c'est la Nessoua. Et Arusa oublie, c'est que le père. D'où ça vient qu'une Arusa, c'est le père et le mari? T'as un passouk où on fait rentrer le mari en jeu, c'est vrai. Dis que ça parle de la Nessoua. Dit la Gemara, mais la Nessoua, c'est déjà mentionné. Et Mishum Nessoua, si c'est par rapport à Nessoua que la Torah parle ici, il y a un autre passouk juste après. Vimbetisha, Nadara. Si elle a fait son vœu quand elle est dans la maison du mari, c'est une image. Ça veut dire une femme qui est déjà mariée. Nessoua Mamash. Donc là, Nessoua a déjà mentionné plus loin que c'est le mari. Pourquoi on va te le dire ici pour une deuxième fois? Forcément, ce passouk, Veimayot, Leish, ça veut dire fiancé. Demande à Gmara une autre question maintenant. Veimatar, peut-être que les deux, ça parle d'une Nessoua. J'ai bien enregistré, tu m'as fait la remarque qu'il y a déjà un passouk pour la Nessoua. Je maintiens. Veimayot, c'est Nessoua. C'est aussi Nessoua. Tu me demandes c'est quoi cette redondance, je te réponds. Tu vas me dire alors pourquoi j'ai dans le de psukim? Les mémars, c'est pour dire que en tant que mari, on ne peut pas effacer les vœux antérieurs au mariage. Et ça s'entend que dans le deuxième passouk. Et donc le deuxième passouk était nécessaire, comme ça s'entend parce que c'est écrit Isha Nadara. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est mariée, elle a fait son vœu. Et c'est précisément dans ce sujet que la Torah te dit, le mari pourra seul effacer. Cette précision n'apparaît que dans la deuxième référence. Donc peut-être qu'on a besoin des deux références pour un seul et unique sujet de la Nessoua, non pas la Arusa. Arusa, c'est que le père, puisqu'on t'a pas parlé. On a fait entrer en jeu le mari que dans le sujet du Nessoua. Répétition, non. Le deuxième passouk, c'est pour préciser sur la nature du Neder qu'un mari est à même d'effacer. Que des Nedarim qu'elle a fait une fois mariée. Mais avant mariage, non. Dit la Gemara, on ne peut pas dire ça. Vela vimela shematmina. Est-ce que tu n'entends pas automatiquement? Ça veut dire que quand tu as le deuxième passouk, tu entends tout dedans. Et tu entends que le mari peut effacer et qu'il ne peut effacer que de tels vœux qu'elle a fait sous le mari, ça veut dire étant marié. Et donc, tu n'as pas besoin d'être de psoukim. En bref, le deuxième passouk se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin du passouk Veimayot Yeleish. Forcément que Veimayot Yeleish a un autre sujet. C'est une situation intermédiaire quand elle est Arusa. Et la Torah, oui, fait rentrer en jeu le fiancé pour dire qu'il faut les deux. Puisqu'elle est encore Bet Isha, elle n'est pas encore entièrement soustraite à l'autorité du père. Si c'était le cas, il n'y avait que le mari, alors ce serait le même dîn, Nessoua et Arusa. Non, Arusa, c'est intermédiaire, il y a les deux qui doivent contribuer. Demande à Gemara, pardon, donc première réponse, c'est Velomi, mais la Shamat Mina, ce que tu n'entends pas de toutes les façons du deuxième passouk? Très bien. Donc le premier passouk serait inutile. Forcément, c'est un sujet à part, c'est le sujet de l'Arusa, c'est dit. Deuxième réponse, Ibaïtema, des Havaya, Kiddushin. Comment tu traduis? Ça se traduit Kiddushin, comme dans d'autres références de la Torah, où on parle de Kiddushin sous ce terme de Havaya, comme Valcha Vaita Leishacher, ça veut dire l'Era recevoir les Kiddushin. Où il y a différentes références comme ça. Le Ran y demande, on a aussi des fois résonance de Nisuin dans ce mot de Havaya. Ça dépend des contextes. Alors, il répond que de toutes les façons, ici, même si ailleurs, des fois, Havaya veut dire Nisuin, n'est pas chez nous. Ici, c'est impossible. Pourquoi? Dit le Ran, dès qu'il va chez Nisette, dès qu'elle est Nessoua, elle sort du Rechout Avia, l'école Adinim. Le père ne peut plus rien pour sa fille, elle est indépendante. Et donc, ça ne se pourrait pas que le pasouk intermédiaire Vimayot Yeleish, qui induit le partenariat du père et du mari, soit le sujet de Nessoua. Donc c'est forcément le sujet de Arusa. Vimayot, il faut le traduire Havaya de Irusin. Prochaine étape, on a fini d'établir de sources sur le din de la situation intermédiaire, quand elle est que fiancée, le père plus le baal, c'est admis. Maintenant, la Gemara demande, peut-être que c'est à admettre, mais pas forcément que chacun a besoin du concours de l'autre. C'est vrai que la Torah, elle fait apparaître que c'est dans cette situation, il faut le concours des deux. Mais peut-être que c'est l'un qui a besoin de l'autre et non inversement. Un pourrait s'en sortir seul pour émettre une afara et l'autre, c'est lui qui ne se suffit pas lui-même, il faut la conjugaison des deux. C'est vrai, on l'a entendu dans les psukim qu'il faut conjuguer les deux, c'est clair. Mais peut-être pas dans les deux sens. Ça va être la question, et lequel pourrait être avantagé et lequel désavantagé, on va envisager toutes les options. Ça, ce sont les deux prochaines étapes qui nous ramènent jusqu'en bas de la page. Alors, première option, Emma Ablechou de Mefer. Pourquoi tu ne dirais pas que le père à lui seul peut être Mefer? Ça voudrait dire qu'elle ne sort pas du tout Mirshut Av par le fait des Hirushin. Et si la Torah t'a dit que quand il y a Ayot Yelech les fiancés, alors il rentre en jeu, ça ne veut pas dire que le père ne peut pas se passer du Harus. Le père pourrait faire une affaire à lui seul et elle serait valable. Mais ça voudrait dire que le Harus, lui, il ne peut que s'il y a aussi le père. Parce qu'on a bien dit « Vevav Mosif Alinan Rishon » c'est la conjugaison des deux, le père précédemment mentionné, plus le Harus. Alors les deux, oui, les deux, vis-à-vis du Harus, on a besoin aussi du père. C'est là où la Torah émet les deux. Elle évoque les deux. Mais quand c'est lui le père, ben le père il peut, comme avant. Il n'est pas réduit parce qu'elle est fiancée. Il a son droit comme auparavant à lui seul. Laura nous explique le bien fondé de cette question, parce que finalement, dans la situation intermédiaire, quand elle est à Roussa, la Torah a bien dit que le mari rentre en jeu et que où il aimait Kim, où il aimait faire. Pourquoi j'ai besoin de ça, Farah? Ce serait pour dire que ça, Farah, peut jouer si elle est doublé de la fara du père. Mais après tout, si la fara du père, elle marche, pourquoi j'ai besoin de celle du mari? Alors, il dit que c'est assez fin. Le Rani va commenter. On va prendre la Gemara naïvement. Quand on a dit que le père, il peut, et le mari seul ne peut pas, alors comment tu gères les psukim? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Torah? Que le mari, il peut jouer sa carte, il peut faire une afara, comme il peut être mekim. On a l'impression que le père a besoin du mari. Puisque le mari, il a sa carte à jouer lui aussi. C'est ce qui est écrit. Vimayoti Yeleish, s'il a metté Mekim, c'est validé. S'il a annulé, c'est annulé. Donc, si le mari a une carte à jouer, il choisit ou ça, et s'il a été méfère, alors ça fait affaire à conjointe. Donc, comment tu dis que c'est que le père? Le père seul s'en sort. Mais si lui aussi, le mari, on lui donne une carte à jouer, c'est que le père ne s'en sort pas seul. Le Ran explique que ça voudrait dire que le mari, l'essentiel, c'est qu'il n'est pas Mekim. C'est ça que la Torah voulait dire. Il doit être Mefer, parce que s'il se tait, il a entendu et il s'est tu, ça s'appelle être Mekim. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas Mekim, le vœu de la fiancée. Parce que s'il est Mekim, d'accord, ça peut entraver la hafara du mari, du père. Mais le père, à lui seul, est Mefer. Il n'a pas besoin le concours de la hafara du mari. C'est une nouvelle vision qu'on suggère ici. Et ça, c'est la question. On se demande, mais que ça va changer au final? Si tu dis, comme c'est écrit dans le Ran, que le mari se tait, ayant entendu, laisse passer la journée, ça s'appelle qu'il a été Mekim. Donc c'est pourquoi il doit être Mefer. Pour ne pas avoir été Mekim et ainsi entraver la hafara du père. Mais pourquoi tu prétends que c'est la hafara du père qui se suffit à elle-même? Mais ce n'est pas vrai au final, puisque coûte que coûte, tu as besoin de la hafara du mari. Parce que s'il n'y a pas eu la hafara du mari, c'est comme s'il a été Mekim. Et s'il a été Mekim, ça entrave la hafara du père. On n'arrive pas trop à comprendre l'intention du Ran. Quelle était la question de la Gemara? Que celle du père se suffirait elle-même, puisqu'au final, toi-même tu le dis, que le simple fait que le mari se tait, ça s'appelle être Mekim, et être Mekim, ça entrave la hafara du père. On ne peut pas ignorer que la Torah, elle a fait rentrer en jeu le mari. C'est écrit, Mayot, Tiel, et Ish, elle est fiancée. Alors, le mari rentre en jeu, il a une carte à jouer, c'est écrit. Comment la Gemara envisage de dire le père pourrait s'en sortir seul? Et le mari, il a la carte, ou Afara ou Léakim. Les deux choix possibles. Tu vas me dire que le père, il peut s'en sortir. Ah, le Ran, il est très fin, et il a réussi avec quelque chose d'ingénieux. Nous dire non, le mari n'est pas là à aider le père, juste il lui gâche pas sa hafara. En bref, c'est ça. Parce que si le mari est Mekim, il gâche la hafara du père. Et c'est ça le partenariat que la Torah a mis au point entre le père et le mari. Que ça. Mais fondamentalement, c'est le père qui efface. S'il y a eu le mari, ben, ça ne peut pas marcher. Faut aussi le père. Mais essentiellement, c'est le père qui est le moteur de la hafara. Le mari, c'est juste qu'il ne doit pas entraver par sa hakama. Et le fait de ne pas faire de hafara, ça s'appelle aussi être mekim. Bah alors au final, on se demandera, nous, la question sur le Ran et sur la Gemara. Mais alors au final, en pratique, concrètement, ça ne peut pas se faire autrement que par la hafara des deux. Donc à quoi ça rime de dire le père pourrait s'en sortir seul? Concrètement, les deux doivent. Pratiquement, les deux doivent faire une hafara. Et qu'est-ce que ça change que tu traduis ça de cette manière ou de cette manière? Que les deux sont moteurs et conjuguent leur hafara, ou que tu dis c'est le père qui est le méfer et le mari de juste faire en sorte de ne pas entraver. Mais sa seule façon de ne pas entraver, c'est de lui faire une hafara. Parce qu'autrement, ça s'appelle hakama. Mais au final, les deux doivent prononcer une hafara. Donc, qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris vraiment ce passage, mais le Keren Ora nous sauve en donnant l'explication suivante. Ça changerait dans le dîn. Imaginons que le père il a fait la hafara aujourd'hui. Le mari, 2 jours après, il a été Mekim. Entre aujourd'hui et 2 jours plus tard, elle a eu le temps de manger ce qu'elle s'était interdit ben neder. Et après, le mari, il va faire. Il a été Mekim. Donc après, quand le mari est Mekim, le vœu est confirmé. Mais pratiquement, quand elle mange la viande, le vœu est effacé. Oui, puisque le père à lui seul efface. Si ce n'est l'entrave du mari, si ce n'est qu'il a été Mekim. Mais avant les 2 jours, le mari n'avait pas entendu, donc il n'a pas été Mekim. La non-hafara du mari compte comme une hakama que quand il a eu écho du vœu. Mais là, 2 jours, il n'avait pas entendu. 2 jours plus tard, quand il entend, s'il se tait, ça vaut une hakama, d'accord? Ça confirme le vœu. Mais au moment où elle a mangé, il y avait la hafara effective du père sans l'entrave du mari. Et ça, tout ça, c'est par rapport à la. Ça se dira, oui, selon la question et la suggestion de l'Agmara. Pourquoi on ne dit pas ça? Demande l'Agmara. Et à ce moment-là, elle sera épargnée du malkout. Tandis que d'après la conclusion, c'est quoi? C'est que non, le père ne peut pas tout seul. Ils doivent conjuguer leur afara tous les deux. Et donc, dans ce scénario particulier, si elle a mangé, elle a eu l'afara du père, mais elle n'a pas eu l'afara du mari. Mais l'afara du père n'a jamais été suffisante. Elle doit se conjuguer à celle du mari. Ce n'est pas que uniquement le mari ne doit pas entraver. Non, il faut conjuguer les deux. Et sans qu'il y ait eu les deux, ben c'est un éder qui est en vigueur. Et donc, elle prendra malkout pour avoir mangé de la viande. Ça, c'est le Hémet. Ça, c'est parce que c'est le din, ainsi comme elle a dit la Mishnah, il faut hafara conjointe. Mais la Gemara suggère que peut-être même si la Torah nous a fait entendre que le mari rentre en jeu quand elle est aroussa et que ça se s'entend qu'il y a un partenariat entre les deux, non pas un partenariat au sens qu'ils sont associés chacun à part égale. Non! Le principal, c'est le père. Elle n'est pas sortie de son réchout. Il a le kohar d'être méfer. Et le mari, c'est juste qu'il ne doit pas entraver en étant mekim. Voilà ce que la Gemara demande et suggère. Et qu'en pratique, il y aurait une nafkamina de din, comme j'ai dit, au nom du Keren Ora. D'où le sens de cette question. Maintenant, qu'est-ce que répond la Gemara à cette question? Imken ve'esara ve'asera isa betavia la mali. J'ai sauté deux mots volontairement. Il y a Niota, ne font pas partie, comme ça c'est corrigé. En tout cas, la Gemara demande, et la Gemara rétorque que si c'est ainsi, le pasouk de Asera Issar Betavia, quand elle était jeune fille, non fiancée, le premier passage, pourquoi la Torah devait nous dire que le père il peut effacer? Si déjà le père il peut effacer lui seul quand elle est fiancée, et le mari, il faut juste qu'il ne gâche pas la fara du père. Et quand il n'y a pas de mari, ben on comprend que le père, il a son pouvoir, il a sa carte à jouer. Marie, il n'y en a pas à l'horizon, elle est célibataire. Eh bien, alors on saura que le père est capable à lui seul de faire une affaire. Et si la Torah, elle en a fait un sujet de la fille qui est célibataire, ça veut dire que c'est deux niveaux différents. Quand elle est célibataire, c'est le père. Ah, il a tous les pouvoirs, il est le seul intervenant. Mais quand elle est fiancée, c'est plus la même chose, forcément, que son dîme change et ça devient un partenariat. Que quand la Torah elle fait rentrer en jeu le mari, au sens d'une shoot-foot, un partenariat, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et pas comme tu l'as préconçu, peut-être le père, il garde ses droits et il a le dernier mot, c'est lui qui agit et qui fait la fara concrètement et l'autre, c'est juste pour ne pas entraver. Non? Ça ne marche pas. La Mali, pourquoi j'aurais besoin de ce sujet numéro un quand elle est célibataire? Ah, je t'aille, je ma comarousse, mes fers. Déjà maintenant, c'est admis, d'après ton option à toi, que le père, il est mes fers à lui seul, malgré la présence d'un rousse, dans la mesure où il n'entrave pas. C'est ce qu'on appelle le Av, il est méfère Avlechoudé, le père il est méfère seul. C'est lui l'agent unique qui a l'origine de l'Afara. Shelobimkom Arous ni Baya, quand il n'y a pas d'Arous, elle est célibataire, t'as un doute, mais va bien comme Sheken, que ce sera le père l'intervenant unique. Donc c'était pas besoin ce passage de Imbet Isha, de le pasouk de le sujet numéro un dans la paracha qu'une jeune fille qui est célibataire, c'est son père, ça coule de source, tu le devines. C'est déjà quand elle est fiancée, c'est le père à lui seul. Ok, parce qu'il y a un mari, il ne faut pas qu'il entrave, c'est une chose, mais quand il n'y a pas de mari, il n'y a aucune entrave, tu sais très bien que c'est le père, parce que voilà, même fiancé, c'était le père. Kol Sheken, célibataire. Si la Torah en a fait deux sujets, c'est que célibataire, c'est un droit supplémentaire. C'est le père qui est unique intervenant. Tandis que un roussin, il n'est pas unique intervenant. Qui génère la hafara conjointement les deux. C'est l'entraide. Voilà pour répondre. Mais maintenant, on leur a nous dit que la Gemara va inverser la remarque et la suggestion qu'on a envisagée dans un sens, on l'a renversée. Peut-être que c'est vrai. La Torah parle d'un partenariat. On fait rentrer en jeu le harous. Il n'y a pas que le père. Mais peut-être qu'il faut dire que désormais le père, il n'a pas autant de droits qu'avant. Lui, sa fara ne se suffit pas. Mais celle du harou se suffit. Ah, mais elle n'est pas encore. Mais si tu fais le vav motif, tu dis que les deux se conjuguent, mais pas dans le modèle que tu as cru que partenariat et shoot-foot à part égale. Non, peut-être on peut envisager que le père, c'est juste qu'il ne doit pas entraver la fara du mari, mais c'est le mari qui génère la fara. Le même modèle qu'on avait envisagé précédemment dans un sens, on l'envisage maintenant dans le sens inverse. Parce que dans le sens que tu avais envisagé, tu l'as exclu. Preuve à l'appui, ça ne peut pas que le père, il est lui l'unique intervenant. Tu m'as prouvé. Alors peut-être le contraire. C'est vrai qu'il faut les deux. Ça veut dire que le père ne peut pas se passer du mari. Mais le mari peut se passer du père. Ah, et pourtant, il faudra les deux. Alors le Ran dira le même. Cheshbon, d'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara cette fois-ci. Lisons. Dit que le père a besoin du harous. Et le harous, lui, à lui seul, il est l'unique intervenant pour générer la hafara. Alors pourquoi la Torah, elle a quand même mis le père dans la photo, il est impliqué. Mibaele. Dans quelle mesure le harous a besoin du père? A minima. Non pas que c'est moitié-moitié, c'est l'entraide. Non. Mekim. C'est uniquement que le père ne doit pas être Mekim, parce que s'il est Mekim, il entrave la hafara du mari. Et le silence du père, s'il a entendu le vœu, ça vaut Hakama et ça entrave la hafara du mari. Comme Loran avait expliqué dans l'autre sens. C'est bizarre que là-bas, c'était le Ran qui expliquait sans que la Gemara l'ait dit. Et là, le Ran, bien sûr, l'explique, mais la Gemara l'a dit. La Gemara, elle a dit que celui qui ne peut pas se suffire à lui seul, quelle est sa carte qu'on lui a donnée? Pourquoi on l'a mis dans la photo? C'est que c'est juste qu'il ne doit pas entraver la part de l'autre, l'intervention de l'autre. C'est tout, il ne doit pas être Mekim. C'est que ça. Plus haut, ça n'a pas été dit pour le mari vis-à-vis du père. Laura nous l'a dit. Et là, pour le père vis-à-vis du mari, la Gemara le dit. Et à cause de ça, il y a beaucoup de littérature ici dans les Mefarshim. Mais pour Laura, même si la Gemara l'a pas dit plus haut, ça s'entend. Parce qu'elle l'a dit ici, ça s'entend là-haut plus haut aussi. C'est le même modèle et la même remarque, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens. De considérer qu'il y a partenariat partiel, pas que 50-50, c'est l'un qui est l'agent principal de la fara et l'autre juste ne doit pas entraver par son silence, qui vaut une akama. Il y aura la même question qu'on a demandé avec la même réponse du Kerenora. Mais si au final il faut que les deux prononcent la fara, parce que si l'autre, en se taisant, ça s'appelle Hakama et ça entrave la fara de l'autre. Donc au final, tous les deux doivent faire la fara, que ça change qu'on ait cette analyse ou cette analyse. Il y aura la même réponse que le Keren aura, qu'on n'a pas besoin de redire. Très bien. Donc la question de la Gemara, elle est, voilà, c'est une bonne question qu'il va falloir répondre. Répond la Gemara imken. Veimbetisha, le pasuk de Veimbetisha Nadara. Si c'est dans la maison du mari, ça veut dire Nessua. Traduction Nessua. Si Nessua, elle a fait son vœu, Lemaikatav, pourquoi la Torah avait besoin de l'écrire? Tu m'as dit qu'en tant que fiancé, déjà, le mari, il a les pleins pouvoirs. Oh, d'accord, il ne faut pas que le père entrave. Ok, mais celui qui est l'agent principal qui génère la hafara, c'est le harous. Mais alors, en tant que Marie, après Nisouin, mais évidemment que c'est lui et que c'est que lui. J'ai même pas besoin d'entendre que c'est à lui d'effacer, ça s'entend automatiquement. Parce que là, elle est sortie du réchaud du père. Le père n'a plus aucun pouvoir. Eh bien, c'est lui l'unique. Le père ne pourra même pas être Mekim. Donc, on m'a de makom avarus mais faire les choudes. C'est déjà en présence du père, c'est-à-dire quand elle est à Roussa. Il n'est pas le seul. Il y a aussi le père encore. Le mari, tu m'as dit qu'il aimait faire les choudes. C'est lui l'unique intervenant à l'origine de l'hafara. Shelo b'makoma v'ibaya, quand il n'y a plus le père dans la photo parce qu'elle est nessoua les riyot samir shutav. Entièrement. As-tu un doute? Mais évidemment que c'est au mari et rien d'autre. Personne d'autre. Donc on a répondu à la question. C'est un peu la même réponse qu'avant. S'agissant du père, on avait dit, mais il y a déjà un sujet. Quand elle est célibataire, c'est déjà écrit que le père seul. Donc si c'est encore le père seul maintenant, pourquoi on avait dit l'autre sujet? Ça va de soi. Si déjà, quand elle est fiancée, le père seul, à plus forte raison, avant, ben, le même cheshbon ici, tu fais dans le sens inverse. Tu es en train d'imaginer peut-être le mari peut lui seul, et le père, il faut juste qu'il n'entrave pas. Et alors pourquoi il y a écrit le sujet de la Nessoua? Si déjà la roussa, c'est le mari seul, plus forte raison la Nessoua. Donc, si la Torah a parlé de la Nessoua, c'est que c'est un autre niveau. Là-bas, c'est le mari seul. Mais dans le sujet d'avant de Veimayotiyeleish, c'est les deux conjointement, ce n'est pas le mari seul. Demande là encore un petit détail, Emma. Imbetisha. Veima, tu devrais dire. Veimbetisha nadara. Lomar shenabal mitferba. Pourquoi tu ne dis pas que ce passouk, bien que c'est une répétition, il est quand même utile? Parce qu'il nous apporte une précision de taille que de nous faire entendre que quelle nature de vœux le mari est à même d'effacer. Uniquement des nédarim actuels qu'elle a fait une fois mariée et non les kodmin, non les nédarim antérieurs au mariage. Ça s'entend que dans le passouk final de Ve'im Bet Isha Nadara. C'est quoi Nadara? Elle a fait le vœu une fois mariée. Pas elle avait des nédarim avant. Là, Arusha, c'est même les nédarim antérieurs au Kiddushin que le mari va effacer conjointement avec le père. Parce que le père pouvait, et la Torah fait rentrer en jeu le mari, et eux deux feront la hafara de quoi? De ces mêmes nédarim qu'elle avait déjà avant. Pas uniquement les nédarim actuels, après Kiddushin. Mais la Nessoua, si c'est le mari, il a un pouvoir que sur des nédarim actuels. Pas des nédarim qui ont été faits avant le mariage. Et ça, on l'apprend que du dernier passouk, donc c'est un passouk qui n'est pas inutile. Dit la Gemara Ouminé, mais de ce même passouk que tu entends. Donc, je redis, excusez-moi, la question elle est, tu m'as dit que si le mari à lui seul en tant que fiancé, il pouvait à lui seul générer la hafara, le père, c'est juste qu'il ne doit pas entraver. Alors pourquoi me parler de la Nessoua? Ça va de soi. Déjà, quand les Arusa, c'est lui qui est le moteur. Donc, a fortiori, quand les Nessoua, il pourra. Et là, il n'y aura pas le père pour entraver. Donc, c'est évident que c'est lui et que lui. Pourquoi la Torah me l'a dit? Je te réponds. C'est une question maintenant. Pour revenir à la question, je dirais. Et peut-être la Torah l'a dit quand même. Elle l'a répété pour nous insinuer, pour émettre en détail la nature des Nédarim qu'un mari peut effacer. Ce n'est pas n'importe. C'est que des nédarim qu'elle a fait maintenant et pas antérieurs au mariage. Parce que ça s'entend dans ce deuxième passouk. Alors, le deuxième passouk, c'est une répétition, peut-être, mais utile. Donc, on pourrait s'en sortir comme ça. Et pas nécessairement dire que c'est deux dossiers à part. Il y a le dossier mariage, il y a le dossier fiançailles. C'est vrai, il y a le dossier fiançailles, il y a le dossier mariage. Mais tu as demandé que du dossier fiançailles, je connais déjà le lien de mariage. Malgré tout, la Torah le réitère parce qu'elle lui donne au passage un détail important pour restreindre. Pas n'importe quel vœu que certains vœux, les vœux qu'elle a fait maintenant. Donc ce ne serait pas surprenant que la Torah ait à répéter le sujet de Nessoua, même s'il s'entend de Harusa. Donc l'option et la question est toujours là. Réponse, Ouminé. Arus mifer bakodmin, de ce même passouk que tu entends. Là, le Nessoua, on t'a dit, il aimait faire que les Nédarim actuels qu'elle a fait après mariage. Mais dans le passage de Arus, Veimayoti Eleish, Umdarea Léa, elle avait déjà ses Nédarim. Donc, Nédarim antérieurs au Kiddushin. Tu vois bien que le harousse, il aimait faire bakkod min. Forcément que le harousse ne peut pas lui tout seul. De là déjà, tu as la réponse. Et là, Mishum shut futé Léa. C'est forcément parce qu'il est en partenariat avec le père. Parce qu'en tant que mari, même Nessoua, le mari n'a pas de recours sur les vœux antérieurs au mariage. Comment pouvait-il avoir un recours en tant que fiancé sur des vœux antérieurs? Ça ne se peut que parce qu'il le fait conjointement avec le père. Alors là, d'accord, je peux l'entendre. Le père, il a un droit sur les nédarines de sa fille qu'elle a fait de longue date, qu'elle a fait avant les Kiddushin, et que le mari qui est maintenant, ça fait que le père n'est plus le seul intervenant, la Torah, elle a mis en jeu le mari, et sur ses nédarines, même antérieures, oui, conjointement, ils arriveront. Mais Nessoua, la Torah a précisé que les nédarines actuelles qu'elle a fait après mariage. Et donc, automatiquement, on est obligé d'admettre que Arusa, ce n'est pas le mari à lui seul. C'est conjointement. Et les deux, par égal, partenaires, qui tous les deux génèrent la fara. Ce n'est pas un, il génère, et l'autre, juste, il ne doit pas gêner. C'est ça la conclusion. Donc, on a bien réussi à ficeler ce limoud qui nous a conduit au din de la Mishnah que Avia et Bala, Mefirin, et l'un ne se passera pas de l'autre d'aucune manière. Voilà, c'est la conclusion. Chazak, la suite Bezrat Hashem, demain, 20h30, Shavuot Tov, Chazak Baruch.